Ce vendredi, nous nous sommes rappelés la crucifixion de Jésus.
Nous savons qu'il est mort parce que qu'un des soldats romains s'est approché de lui, lui a percé le côté avec sa lance et que de l'eau et du sang sont sortis aussitôt. Après cela, Joseph d'Arimathée et Nicodème sont venus prendre le corps de Jésus pour le déposer dans un tombeau tout neuf dans lequel, en fait, on n'avait jamais mis personne. Et pendant qu'il était encore vivant, Jésus avait prédit qu'il ressusciterait. Il avait mis ses ennemis au défi. « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » C'est-à-dire que nous savons qu'il faisait référence à ce moment-là, à son corps. Jésus a aussi dit à ses disciples à plusieurs reprises qu'il serait mis à mort par les dirigeants de Jérusalem, mais qu'il reviendrait de la mort à la vie le troisième jour. Les dirigeants qui ont fait mourir Jésus se rappelaient très bien qu'il avait prédit qu'il ressusciterait. Et même s'ils n'y croyaient pas, ils voulaient s'assurer que ça n'arriverait pas. Ils voulaient s'assurer que Jésus ne ressusciterait pas. Même aujourd'hui, la résurrection est quelque chose de difficile à comprendre parce que c'est quelque chose d'unique. Les gens meurent, les gens s'en vont dans un cercueil, et dans le monde, dans le matérialiste dans lequel on vit, rationaliste aussi, il n'y a plus rien après la mort. L'homme n'a plus d'espérance que l'animal, que le veau, que la vache, que le chien, que le cheval. L'homme n'a pas plus d'espoir que cela. Mais Dieu nous aime et Dieu a voulu, Dieu nous l'a montré. Il nous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre et pour nous parler de son plan pour l'homme et pour la femme. Et ça donne de l'espoir. Peu importe ce qui survient dans nos vies, on sait que Dieu est en contrôle de l'univers. Que même si les gens de ce monde, les puissants de ce monde planifient des choses pour s'approprier ceci, cela, pour partir des guerres, sans s'en rendre compte, ils sont en train finalement de participer au plan que Dieu a pour l'humanité. Et un jour, la Bible nous dit qu'un jour, Dieu va mettre fin à cette misère. Dieu va mettre fin à tous ces abus. Et que tous les hommes devront comparaître devant lui. Les uns pour rendre des comptes, et pour les autres, de pouvoir les voir, de pouvoir les entendre dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » Et les pharisiens, qui étaient religieux, qui étaient vraiment religieux, ont tout fait pour empêcher les gens de croire que Jésus était ressuscité. Et c'était pas, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de facile à comprendre, puisque Jésus, à plusieurs reprises, a dit à ses disciples, « Un jour, je vais ressusciter. » Et les disciples ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, parce que c'était jamais arrivé avant. Ce n'était jamais arrivé. Alors, ils ont compris après la résurrection, parce qu'ils l'ont vu vivant. Ils l'ont vu dans un corps qui était glorifié. Ils ont vu ce Jésus. Il a apparu pendant 40 jours à ses disciples. Il a apparu à plus de 500 témoins. Et Luc a fait des démarches. Luc, qui était médecin, ne prenait pas des oui-dire à droite et à gauche. Il a vérifié les faits et il a mis par écrit cet évangile, l'évangile de Luc, qui s'adresse surtout à ceux qui ne pratiquent pas de religion, qui ne sont pas nécessairement croyants. Il amène des preuves tangibles que Jésus, ce qui est écrit dans son évangile, c'est basé sur des preuves. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre l'évangile pour avoir une espérance, avoir un espoir dans cette vie. Les gens sont déprimés, les gens sont découragés. Il y a un taux de suicide incroyable dans ce monde. Les gens se lancent dans les médicaments, se lancent dans la drogue, se lancent dans l'alcool, pas parce qu'ils sont bien, parce que ça dénote qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Et ce vide, on sait c'est quoi? C'est cette paix. Cette paix et cette joie que l'homme ne peut pas donner aux hommes, mais qui vient du ciel. Cette paix et cette joie qu'on peut recevoir seulement en Jésus-Christ. Et on voit que, malgré la stratégie des chefs des prêtres et des pharisiens, elle va échouer. Malgré leurs efforts, Jésus va quand même ressusciter. Rappelez-vous de quelle façon il avait dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Est-ce que tu crois cela, Marthe? Et Marthe a dit, « Oui, je crois cela. Je crois cela qu'à la fin des temps, il va avoir une résurrection. Il va avoir une résurrection. » Pendant son ministère sur la terre, Jésus a ramené plusieurs personnes de la mort à la vie, incluant Lazare, le frère de Marthe, qui était mort depuis déjà 4 jours. Mais la résurrection de Jésus est différente. Lazare est mort. Il a été ramené à la vie par Jésus, mais il est mort aujourd'hui. Et il attend cette résurrection de la fin des temps. Mais Jésus est mort. Il est revenu à la vie dans un autre corps, un corps glorifié, un corps qui ne peut plus vieillir, un corps qui va vivre éternellement. Et c'est ce corps qu'il promet à ceux qui veulent placer leur confiance en lui. Vous êtes amen à ça. Il est écrit que... Jésus n'a pas été ramené à la vie pour mourir ensuite plus tard, comme ce fut le cas pour Lazare, mais qu'il est ressuscité, apparaissant dans ce corps transformé, comme je viens de vous dire. Très tôt le dimanche matin, le texte biblique nous dit dans Luc, « Quelques femmes se rendirent au tombeau, en emportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée loin de l'entrée du tombeau. Elles entrèrent, mais elles n'y trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient quoi penser. Lorsque deux hommes leur apparurent en habits brillants, et nous savons que c'est deux anges, comme elles étaient saisies de crainte et qu'elles tenaient leur visage baissé vers le sol, ces hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie. » Et elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Plus tard, elles virent le Seigneur ressuscité face à face. Frères et sœurs, quand nous quittons ce monde, nous ne quittons pas le monde des vivants pour entrer dans le monde des mourants. Nous quittons le monde des mourants pour entrer dans le monde des vivants. Dites amen à ça. Ouais. Il y a une vie qui nous attend. La mort, ce n'est pas la fin de tout. C'est le début d'une nouvelle vie. De nouvelle vie que Jésus nous a promis. Une qualité de vie incroyable qu'aucun homme sur la terre pourra jamais nous donner. Les évangiles rapportent ces événements, mais un des premiers à avoir écrit sur la résurrection de Jésus, c'est l'apôtre Paul. 25 après la mort de Christ, il écrit, « Je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu, celui qui est le plus important. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour, comme aussi l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois, dont la plupart d'entre eux sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Au moment où Paul écrit son épître, il y a des témoins qui sont encore vivants, qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Si Jésus, s'il ne l'avait pas vu vivant, si Paul était en train de raconter un mensonge, ces soi-disant témoins qui n'auraient pas vu Jésus auraient été les premiers à monter aux barricades pour contredire l'apôtre Paul et le traiter de menteur. Paul nous dit que non seulement les 12 apôtres, non seulement les disciples, mais aussi plus de 500 personnes ont vu Jésus-Christ après sa mort. Ils l'ont vu en chair et en os, parce que c'est son corps que Jésus avait. C'est pas un esprit, il n'est pas monté au ciel en esprit, il est monté avec son corps, un corps glorifié, un corps transformé. Le même corps qu'Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden avant le péché. Et c'est ce corps qu'il vous réserve à vous, si vous voulez prendre cette décision, de reconnaître que c'est seulement lui que vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés. Et qu'à travers la résurrection, eh bien, que cette promesse, elle va s'accomplir un jour. Non seulement il veut vous accorder le pardon de vos péchés, mais il veut vous ramener aussi de la mort à la vie et vous faire régner avec lui. Est-ce que vous imaginez le Dieu qui tient l'univers dans ses mains? Quand on regarde les scientifiques qui sont émerveillés parce que ce qu'ils découvrent dans l'univers, et vous savez que c'est parmi les scientifiques pour l'instant qu'il y a beaucoup plus de conversions que dans d'autres corps de métier. Ils sont émerveillés de voir ce qui se passe dans l'univers. Est-ce que vous réalisez que Dieu ne sera jamais plus petit que son univers, mais qu'il est toujours plus grand que son univers et qu'il tient l'univers dans ses mains? C'est ce que la Bible nous dit. Frères et sœurs, on a un Dieu qui aurait pu se croiser les bras, se retirer, nous regarder, nous détruire les uns les autres. Mais il a voulu participer avec nous à nos problèmes, à nos difficultés, à notre bonheur. Et nous accorder ce que nous avions besoin, et il l'a fait à travers Jésus-Christ. La Bible appelle ça une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est un miracle. Il n'y a aucun homme, aucune religion qui peut faire cette nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'à travers ce qui s'est passé à la croix et ce qui se passe à travers la résurrection, à travers la confession de la bouche, dire « Seigneur, je te demande pardon », c'est pas facile à faire. Hein? Ce n'est pas facile à faire de demander pardon. Parce que derrière tout péché se cache un orgueil. C'est l'orgueil. Hein? Et de dire « Seigneur, ta Bible, c'est un miroir pour moi. » Oui. Quand je lis la Bible, je me vois à travers ce livre. Et Seigneur, tu me dis que je suis un pécheur, tu me dis que j'ai désobéi à ta loi, Seigneur, je le reconnais. Bien, c'est pas facile. C'est facile à lire, mais c'est pas facile à reconnaître. Et de dire que malgré toutes les bonnes choses que je peux faire, il n'y a aucune bonne chose que je peux faire qui peut effacer un seul de mes péchés. C'est pas évident à dire aussi. Parce que dans le cœur de l'homme, sommeille tout religieux. Il y a un religieux qui sommeille dans le cœur de l'homme. On veut faire des choses pour plaire à Dieu. Et Dieu nous dit, la seule façon que tu peux me plaire, c'est pas en faisant des bonnes œuvres pour moi, c'est en acceptant l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour toi et pour moi. Cette œuvre, c'est qu'il a pris le châtiment que tu méritais pour tes péchés, il l'a pris. La punition que tu méritais, toi et moi, pour nos péchés, il l'a pris sur lui. Il était innocent, il n'avait jamais péché. Et il a dit, je vais prendre tes péchés sur moi, parce que je t'aime. Et vous auriez été le seul à être perdu sur la terre, le seul pécheur à être sauvé sur la terre. Jésus-Christ serait quand même monté sur la croix pour payer le prix que la loi de Dieu exigeait pour recevoir le pardon de nos péchés. Il le fait. Et on est Dieu, et on sait que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Ça, c'est le miracle, pas le miracle de la religion. Ça, c'est le véritable christianisme. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question, c'est une personne, et c'est la personne de Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a transformé, et ma joie, en tout cas, ma joie et mon dynamisme pour en parler, c'est parce qu'il a accompli tellement de choses dans ma vie. Il a bouleversé ma vie, mais il a complètement changé ma vie, et je vis pour autre chose maintenant. Autre chose maintenant, je vis pour les choses qui m'attendent pour l'éternité et j'essaie d'être partagé aux autres. L'Évangile, c'est quelque chose de magnifique. Ça parle jusqu'à quel point Dieu vous a aimé, jusqu'à quel point Dieu a aimé, jusqu'à quel point Dieu a choisi. C'est choisi, Dieu qui a choisi que nous participions pour l'éternité avec lui, dans ce royaume, dans ce monde qu'il est en train de nous préparer. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus sur la terre, parce qu'il était la solution pour effacer nos péchés et recevoir le pardon de Dieu et la vie éternelle. Suite au miracle de la résurrection de Jésus, les disciples qui étaient déprimés et découragés furent instantanément transformés. Lisez les Écritures. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient découragés. Ils n'avaient pas encore compris ce principe de la résurrection. Déprimés, découragés. Et tout à coup, quand ils voient Jésus apparaître devant eux, ils sont complètement transformés. Il y a 11 disciples, il y a 11 apôtres sur 12 qui ont accepté de mourir martyrs. Est-ce que vous croyez qu'ils auraient accepté de mourir pour un mensonge? Est-ce que vous croyez qu'ils auraient été assez idiots pour proclamer un mensonge à la face du monde, de raconter au monde que Jésus était ressuscité, de raconter au monde que Jésus, qu'ils avaient vu Jésus alors que ce n'était pas vrai? Il y a deux avocats au 19e siècle, au début du 20e siècle, qui ont essayé de démolir la Bible, qui ont pris les évangiles pour trouver des contradictions et lancer ça à la face du monde. Les deux avocats se sont mis, c'était des juristes, ils se sont mis à analyser les passages et les deux sont venus à la conclusion que quelqu'un qui ne croit pas à la véracité des textes bibliques, eh bien, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans sa tête. Ces deux personnes se sont converties, deux avocats qui se sont convertis. Je ne me souviens pas de leur nom, mais se sont convertis. D'autres avant eux ont fait la même chose, ils se sont convertis. On est incapable de trouver une contradiction. Quand on lit la Bible d'un couvert à l'autre, ça a pris 1500 ans pour écrire ça. Des auteurs différents qui ne se sont jamais rencontrés. Il y a eu un roi, il y a eu des hommes de ferme, il y a eu des hommes intelligents, il y a eu des hommes moins intelligents, mais Dieu les a utilisés pour nous transmettre sa volonté. Mais c'est extraordinaire comment Dieu peut nous utiliser, nous qui sommes d'une intelligence limitée, pour transmettre sa vérité au monde dans lequel nous habitons. Beaucoup de personnes ne croyaient pas dans la résurrection. Nous trouvons des gens qui refusaient de croire que Jésus était revenu de la mort à la vie. Les Sadducéens étaient des matérialistes qui ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort, alors que les pharisiens croyaient. Et même dans l'Église, malheureusement, certains qui se disent chrétiens ne croyaient pas dans la résurrection. Paul parle de cela dans 1 Corinthiens 15 et dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 17-18. Il mentionne les noms de deux personnes. Il écrit qu'il faisait partie, ces deux personnes, de ceux qui ne croyaient vraiment pas dans la résurrection des morts. Par conséquent, le fait de ne pas croire dans la résurrection n'est pas une idée qui est récente. À la fin du 17e siècle, certains dans l'Église commencèrent à remettre en question tout ce qui était miraculeux, particulièrement la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu des déistes, il y a eu des philosophes, un paquet de philosophes, je ne veux pas les nommer ce matin et commencer à citer leurs paroles, mais des gens qui ont rejeté également la résurrection du corps, des gens malheureusement qui faisaient partie de l'Église protestante. Et aujourd'hui, eh bien, la plupart des églises libérales rejettent la résurrection et les miracles qui sont écrits dans le Nouveau Testament. Et quand vous pensez à tout ça, c'est une absurdité, finalement. Si Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il n'est pas ressuscité, ça change quoi dans ma vie? Ça change quoi dans votre vie? Retournez dans le monde, hein? Allez vous amuser, hein? Mangez et mourrez parce que demain... Mangez, buvez, parce que demain, vous allez mourir. Nous n'avons pas plus d'espérance que les gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Si Christ est mort pour mes péchés et qu'il n'est pas ressuscité, eh bien, moi, je continue à vivre comme je vivais avant. Le véritable christianisme, c'est que Christ est non seulement mort, mais qu'il est revenu de la mort à la vie et qu'il me promet de me ramener un jour de la mort à la vie. Et je crois, c'est une question de foi. Il y a un très bon livre qui a été écrit par Rachanif. Il faut beaucoup de foi pour être athée. Il explique dans son livre que ça prend plus de foi pour ne pas croire que Dieu existe qu'il n'existe pas, quand on regarde tout ce qui nous entoure. De penser que tout est fruit du hasard, eh bien, ça prend une foi plus solide que de croire que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et que Dieu existe. Si nous croyons à la résurrection de Jésus-Christ telle que rapportée dans le Nouveau Testament, que signifie alors la résurrection pour nous, croyants? Premièrement, la résurrection de Jésus-Christ nous montre clairement la puissance du vrai Dieu. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1 que c'est par la puissance de notre Père céleste que Jésus-Christ a été ramené de la mort à la vie. Deuxièmement, que signifie la résurrection pour nous? La résurrection prouve que Jésus-Christ est Dieu. C'est exactement ce que Dieu le Père voulait nous communiquer dans Romains chapitre 1, verset 4. Je vais lire le passage. Jésus a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il est ressuscité d'entre les morts. Les Juifs crucifièrent Jésus-Christ parce que pour eux, ils blasphémaient lorsqu'ils disaient qu'il était le Fils de Dieu, l'égal du Père. La résurrection de Jésus-Christ démontre qu'il est vraiment ce qu'il disait être. Troisièmement, que représente la résurrection pour un croyant? Eh bien, notre salut dépend de notre foi dans la résurrection de Jésus-Christ. Romains 19, Paul dit, comment nous sommes sauvés? Il dit, il écrit, si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus, si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Nous entendons le message. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est irrationnel. Nous entendons le message, ça descend dans le cœur, et là, on prend la décision de confesser publiquement que oui, on est pécheur, que oui, on a besoin du sacrifice de Jésus, et qu'on loue le Seigneur pour l'amour qu'il a manifesté pour nous. Cela signifie que vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est ressuscité. Cela signifie que même si certaines personnes fréquentent les églises, si elles rejettent la résurrection de Jésus-Christ, elles ne sont pas chrétiennes. Quatrièmement, qu'apporte la résurrection aux chrétiens? Eh bien, elle prouve que tout ce que Jésus a enseigné est la vérité. Cela inclut sa grande promesse qu'il a faite dans Jean chapitre 6, verset 4. « Tous ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle, et je les ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. » Tout ce que Jésus a enseigné concernant sa personne, son œuvre, le ciel, l'enfer et le jugement futur, toutes ces choses sont vraies. Cinquièmement, qu'est-ce que la résurrection nous apporte? Nous qui sommes croyants, elle confirme que nous sommes justes aux yeux de Dieu. Christ a été livré à la mort, dit Paul, à cause de nos péchés. Il a été ramené de la mort à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. Qu'est-ce que la résurrection apporte aux chrétiens? Sixièmement, si notre propre résurrection dépend entièrement de la résurrection de Christ, l'apôtre Paul écrit, « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts en croyant en lui. » Il y a beaucoup de versets qui traitent de ce sujet, y compris 2 Corinthiens 4,14 et beaucoup d'autres encore. Septièmement, la puissance que nous avons besoin pour notre vie chrétienne, c'est la puissance de la résurrection. C'est ce que Paul écrit dans Éphésiens chapitre 1, verset 19-21 et dans Romains 6-4. Et c'est ce qui fait défaut dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et c'est ce qui amène l'Église de Jésus-Christ d'être très passive au niveau de proclamer l'Évangile. Par le baptême dont nous avons été enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que tout comme le Christ est ressuscité des morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. Les gens me demandent comment pouvez-vous vivre cette vie chrétienne. Nous pouvons la vivre en nous appuyant sur la même puissance qui a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous dis que ça fait défaut dans notre Église, dans l'Église en général aujourd'hui? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes convaincus? Qui est convaincu qu'on va revenir de la mort à la vie un jour? Frères et sœurs, si on avait vraiment cette conviction dans notre cœur, on partirait en courant et on irait l'annoncer aux gens. De la main, on le confesse. De la bouche, on peut le confesser. Mais en action, est-ce qu'on est capable de démontrer en action que ce qu'on croit dans notre tête, eh bien, on le vit. C'est une réalité dans notre vie. Frères et sœurs, plusieurs d'entre vous avez accepté le Seigneur depuis des années. Est-ce que le Seigneur Jésus est devenu simplement un nom dans votre vie ou s'il est toujours une réalité? S'il est devenu une réalité, comme la résurrection devrait être une réalité, on devrait partager cet évangile qui parle de l'amour de Dieu pour les perdus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La Bible nous dit que nous avons tous péché, nous sommes tous perdus, il est venu pour sauver tout le monde, y compris vous, y compris moi. La résurrection de Jésus démontre que Jésus est le juge désigné pour juger tous ceux qui ont refusé de se repentir. Dans Actes 17, 31, Paul dit aux Éthéniens, « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en le ressuscitant des morts. » Et nous voyons la même idée qui ressort dans Jean, chapitre 5, verset 22, où Jésus dit, « Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils le pouvoir entier de juger. » Dans les versets 27 et 29, Jésus continue, il dit, « Il a donné au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » « Ne vous étonnez pas de cela, continue-t-il, car le moment vient où tous ceux qui sont morts entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » En terminant, comment réagissons-nous face à la résurrection? La parole de Dieu nous exhorte à nous repentir maintenant et à croire en celui qui est le juge du monde. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé », a dit Paul au geôlier de Philippe. Le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu qui est devenu homme. Il est 100% Dieu, il est 100% homme. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est revenu à la vie, de la mort à la vie, pardon, et le troisième jour, selon ce qu'il avait prédit, selon ce qu'avaient prédit les Écritures. Le même Seigneur Jésus monte au ciel, et il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. Est-ce que vous avez cette assurance que lorsqu'il reviendra, il vous fera entrer dans son paradis avec lui? Si ce n'est pas la position de tout le monde ce matin, J'aimerais vous inviter à faire simplement cette prière. Je vous invite à courber la tête, à fermer les yeux. On va prier. On va terminer en priant. Si c'est là votre plus grand désir ce matin, d'avoir la certitude que vos péchés sont pardonnés, que vous reconnaissez que vous êtes pécheur ce matin, que vous voulez vous repentir, l'idée, ce n'est pas de vous mettre en spectacle, de vous mettre en spectacle devant tout le monde, c'est entre vous et le Seigneur ce matin. Mais j'aimerais vous aider à le faire en vous invitant à faire cette prière. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci d'avoir payé la dette de mon péché en versant ton sang sur la croix. Maintenant, par la foi, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je n'ai pas tout saisi du message que je viens d'entendre. Mais par la foi, je t'invite à venir dans mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mon péché. Purifie-moi et sauve-moi. Maintenant, Seigneur Jésus, par la foi, je t'appartiens et je n'aurai pas honte de toi et je veux vivre le restant de ma vie pour toi. Seigneur, je reconnais que je suis fort, que je suis faible, mais Seigneur, toi, tu es fort et commence à partir d'aujourd'hui à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Donne-moi la force de témoigner publiquement de toi. C'est dans ton nom, Seigneur, que j'ai été prié. Amen.